réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard.
Et le clown David Richard. Bonjour à tous, réussite éducative comme annoncé la semaine dernière et vous retrouverez la vie associative la semaine prochaine. On est très content de vous retrouver, chers auditeurs. On va enchaîner cette émission avec celle de la semaine dernière. Vous verrez, c'est une continuité au niveau des thèmes. Je vais commencer par 2-3 petites annonces, mais super rapides, parce que là, David, t'as fait fort aujourd'hui. Autant des fois, des fois, tu m'as déçu, mais alors là, on a un super plateau. On vous le dit, chers auditeurs, les émissions sont bien sûr rediffusées et sont également en podcast, et elles sont souvent, très souvent, et c'est le cas aujourd'hui, filmées. Je fais une petite parenthèse par rapport à ce fait que des gens de plus en plus regardent la radio en l'écoutant sur YouTube, vous tapez RCN, etc., réussite éducative. Ne ratez pas l'émission d'Halloween, vie associative. Il y a 3 émissions en arrière à Halloween, parce que j'avais tenté de faire l'émission vie associative où je recevais l'association pour Mayotte, Nancy Union Mayotte Solidarité. J'avais tenté de faire l'émission, puisque c'était le jour d'Halloween, avec un costume citrouille qui se gonflait, mais qui n'a pas arrêté de se gonfler pendant toute l'émission. Et à un moment donné, j'ai cru que j'allais mourir étouffé, tel Pierre Richard dans l'hélicoptère, dans la chèvre, là, quand il a été piqué par l'abeille. J'ai cru, à un moment donné, on le voit sur YouTube, je crois que le costume, à un moment donné, j'ai même eu peur moi-même qu'il ne s'arrête pas de gonfler. J'étais de plus en plus loin du micro. Et je pense que j'ai regardé avec Adèle et ça vaut le coup. Tu verras, David, si un jour tu tombes dessus.
ça
vaut le coup. Tout ça pour vous dire que donc, cette émission, et bien sûr, vous pouvez la retrouver. Alors, la seule chose que vous allez rater, mais c'est grave pour la vie associative, c'est moins grave pour réussite éducative, vous n'avez pas sur YouTube les pauses musicales. Donc encore une fois, c'est moins grave pour réussite éducative. Je plaisante, David, elles sont belles tes pauses musicales. C'est sympa. Donc, quelques
ascenseurs émotionnels, tu sais.
Quelques infos, mais alors très rapide, et du coup, je vais faire vraiment rapide. Vous avez le Facebook Chamallow Saltimbanque, et là, il y a toutes les infos que je ne vous donne pas tout de suite parce qu'on a un super plateau. Simplement, la seule chose, pensez bien une. Que le Téléthon est lancé depuis très longtemps, mais il arrive ici dans son apogée, paroxysme, acmé, tout ce que vous voulez. Mais sinon, bien sûr, vous le savez, c'est depuis le 1er juillet que le Téléthon est lancé. On ne résume pas le Téléthon, je le dis tout le temps, je le dirai jusqu'à mon dernier souffle. Le Téléthon, ce n'est pas que les 30 heures télévisées. Mais sinon, il y a beaucoup d'actions déjà avant et après ces 30 heures. Mais en tout cas, on arrive dans ce point d'orgue qui est quand même le mois de décembre. Renseignez-vous, vous allez sur la coordination 54, sur le site de la coordination 54, et là, il y a toutes les actions à venir, passer, présente, etc. Et vous y retrouverez bien sûr les actions menées par notre association Les Petites Grandes Âmes. Vous savez, notre cagnotte est en ligne sur le site de RCN ou sur Chamallow Saltimbanque, le Facebook. Il y a encore des gens qui ont Facebook. Oui, David, c'est vrai, j'assure. Les réseaux. David m'a dit la semaine dernière, il faut dire les réseaux.
C'est plus simple. C'est plus simple. Pas la tête.
voilà. Et l'autre truc, ne ratez pas la semaine prochaine la vie associative, car il y aura aussi, comme aujourd'hui, un super plateau, puisque ce sera la journée rencontre avec tous les acteurs pour lesquels il y a eu 2 actions sportives qui ont été menées, à savoir les Blues Roses seront en direct la semaine prochaine à 17h, les Blues Roses, Raphaël Lorraine, France Victime 54 et... nous aurons également la FM Téléthon avec Michel Adam, le coordinateur. Toutes ces associations sont présentes dans Vie Associative en direct à 17h, tout simplement parce que juste avant, on fera une heure de rencontre ici dans les studios avec ces associations-là, pour lesquelles Joris a marché 400 km au mois de juillet ou juin, et pour lesquelles je suis allé avec Julien monter 2 fois le Ventoux au mois d'août. Je ferme la parenthèse, donc ça c'est la semaine prochaine. Et puis l'émission après, donc ça sera, on a calculé avec David, ça sera le 3, l'émission du 3 à 17h, ce sera une émission intégralement consacrée au Resto du Cœur avec Laurence chargé de communication qu'on reçoit régulièrement dans Vie Associative et avec Jocelyne qui est chargée d'organiser la distribution des jouets des Restos du Cœur, distribution des jouets qui aura lieu le 17 décembre à Vendeuve dans la salle des fêtes, parenthèse fermée. David, à toi de jouer pour ce magnifique tour de table que tu nous offres aujourd'hui.
Eh ben allez, en avant. Ce soir, on va parler de quelques sujets. On va avoir des chroniques. Voilà, je vais laisser aussi les chroniqueuses en question se présenter. On va surtout beaucoup parler d'accompagnement scolaire au sens très large. Qu'est-ce que c'est que l'accompagnement scolaire? On va effectivement faire un petit tour de table. Alors, on va commencer en fait par ce monsieur qui se trouve là en le remerciant parce qu'il a décalé une réunion pour pouvoir être là et c'est super gentil de sa part. Donc, du coup, il a le privilège de commencer le tour de table.
Ok, merci David. Alors moi je m'appelle Jean-Claude, je fais du soutien scolaire, ça veut dire que je me déplace dans les familles comme celle d'Alejandro, pour entre-ouvrir le sac d'école, sortir l'agenda, regarder les devoirs à faire, et puis, ensemble, seul, ça dépend, faire les devoirs, dans une ambiance tranquille, souriante. Alors, je ne suis pas prof, hein, moi. Je fais du soutien, je suis le grand-père qui vient aider à faire les devoirs. C'est pas la même chose.
Tu sais que tu es en train déjà d'expliquer ce que tu vas expliquer dans la deuxième partie.
D'accord. Donc on m'a pas dit.
Ah oui, est-ce que tu le sais, ça, Jean-Claude?
Non, je sais rien. J'ai sûrement pas bien écouté.
On en reparlera tout à l'heure. Il y a pas de souci. Suite du tour de table. Qui es-tu?
Alejandro. J'ai 10 ans et. J'ai 11 ans.
Ah, tu vois, la semaine dernière, pareil. Il a 11 ans. Oui, depuis 3 mois déjà.
J'ai 11 ans et. Et je suis en CM2 et je suis à l'école Boutaigne-Aimont.
Merci.
Pardon. Bonjour à tous, Claire, et je viens ici pour faire des chroniques régulièrement.
Très bien, en parlant de ça.
Bonjour à tous, je m'appelle Awa, j'ai 16 ans et je suis lycéenne au lycée Chopin. Et je viens faire ma première chronique ici.
Super, merci.
Bonjour à tous, je m'appelle Lou et je fais un service civique... dans le cadre de l'accompagnement scolaire aussi. Voilà.
Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Julie et je suis chargée de développement sur le programme Mentorat à distance au sein de l'association AFEV.
En passant, je tiens à remercier Camille, on dit Epstein, j'ai toujours un doute, ok d'accord, que j'ai rencontré pour d'autres raisons, pour un petit peu croiser nos suivis, et puis l'occasion, faisant le larron comme on dit, je lui ai proposé effectivement, comme je savais qu'on avait cette émission sur cette thématique, voilà, que la FEV puisse être représentée, et puis en plus par des gens qui sont sur le terrain dans l'accompagnement, donc ça c'est super chouette. Merci beaucoup pour ce petit tour de table. Avant de passer à la chronique de Claire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quel sujet ça va être?
Oui, un sujet lourd, difficile à évoquer, mais auquel je tenais à faire. Voilà.
Merci. Et
on va faire un peu de mal à en parler.
Ouais, voilà. On va faire une petite pause musicale pour lancer un petit peu la thématique.
Oh, déjà?
Déjà.
Ça allait vite.
Je n'ai pas le droit. Je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement dû taire parfois l'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, qu'ils disent que je suis comme les autres. Je veux un enfant dans le ventre. Qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose. Grandiose, la vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée. Une vie comme ça n'existe pas. De moi qui dit tu n'es pas comme les autres. Des filles prendront ton cœur à toi. Bats-toi, t'auras une vie grandiose. Grandiose, la vie que j'avais inventée pour toi. Assourdissante, le gris de l'église de fond rose. Je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose. Grandiose.
Réussite éducative sur RCN.
Très jolie chanson. On va laisser tout de suite la parole à Claire.
Un seul être vous manque. Il me tenait à cœur depuis un moment de m'adresser à vous, mesdames, dont les bras restent vides. À vous, tout d'abord, qui avez porté la vie quelques semaines, quelques mois. À vous qui avez dû affronter cette terrible phrase « Votre bébé n'est pas viable » ou « Son petit cœur ne bat plus ». Vous avez dû avaler ce fichu cachet et puis parfois même, vous avez dû porter votre bébé sans vie pendant de longs jours pour finalement devoir en passer par le bloc opératoire et les mains du chirurgien ou même subir un véritable accouchement. Vous avez versé tant de larmes parce que cette épreuve, vous l'avez traversée une fois, deux fois, sept fois. Vous êtes 200 000 en France chaque année à subir cette douleur physique, mais surtout psychique. Vous restez dans le silence parce que c'est difficile d'en parler. Et puis autour de vous, votre meilleure amie attend son deuxième enfant et votre sœur est sur le point d'accoucher. Alors vous serrez les dents et vous faites comme si tout allait bien. Mais vous, vous êtes en deuil et personne ne le sait. C'est un deuil sans corps, sans rite, sans sépulture. Vous êtes 200 000, mais vous êtes seul, parce que chaque femme, chaque couple a son histoire, sa façon de traverser l'épreuve. Le papa est à vos côtés, mais il se sent impuissant face à votre détresse due à la fin prématurée de cette grossesse. Vous cheminez et laissez le temps faire son œuvre avant d'accueillir à nouveau la vie. À vous aussi, mesdames, à l'instar d'Anne d'Autriche, qui a dû patienter 23 ans de mariage pour donner naissance au fameux roi soleil, vous qui espérez le miracle de la vie. À vous qui entamez un parcours de procréation médicalement assistée, ou peut-être, devrais-je dire, un parcours du combattant. Vous et votre conjoint devez vous soumettre à ces batteries d'examens, des examens éprouvants, chronophages. Vous subissez les protocoles, et tous leurs effets secondaires. Entre espoir, doute et attente, vous traversez une période intense mêlant émotions fortes et questionnements existentiels. Ce cheminement n'est pas uniquement médical et technique, c'est une grande épreuve psychologique. Il vous arrive de culpabiliser, vous osciller entre l'espérance et la peur de l'échec. Des associations, des groupes de parole, des psychologues spécialisés dans les problèmes de fertilité peuvent vous accompagner sur le chemin de la réussite de votre projet de maternité. Votre entourage familial, amical, a un rôle important grâce au soutien qu'il peut vous apporter. Que vous souhaitiez rester dans le silence ou que vous ayez besoin de partager vos émotions, l'écoute, la bienveillance et la présence constituent les bases de l'accompagnement. Mais il n'est pas toujours facile de trouver les mots. Ils sont encore plus difficiles à formuler face à vous, les mamans, qui avez accompagné le combat de vos tout petits durant des heures, des jours, des mois. Vous qui avez surveillé chaque souffle de ces petits prématurés nés bien trop tôt. Malgré les soins du personnel compétent et dévoué des services de néonatologie, malgré votre présence, votre amour, celui de son papa et de toute la famille, malgré sa lutte, son désir de vivre, votre bébé s'en est allé. Il s'est envolé tel une petite pie. Je veux ici vous témoigner de l'admiration que j'ai pour vous, maman, père, famille, dont la famille est bouleversée, chamboulée. Vous faites preuve d'un tel courage face à ce drame qui vous frappe. Et oui, vous avez le droit d'être triste et il est légitime d'éprouver de la colère contre cette injustice. À vous aussi, maman, dont l'enfant est né sans vie, à vous qui devez déclarer une mortinaissance. Alors à vous toutes et tous qui, quelle qu'en soit la raison, vivez accompagnés par l'absence, la perte indélébile, je veux croire en votre résilience, en votre force intérieure. Vous ne savez jamais à quel point vous êtes fort jusqu'à ce qu'être fort soit votre seul choix. Cette phrase de Bob Marley trouve chez vous un écho tout particulier. Alors pour vous toutes qui vous battez pour donner la vie, pour vous aussi, chère mamange, je fais le vœu que la lumière retrouve sa place dans votre vie. Elle peut encore vous offrir un cœur, un bébé à chérir. Un enfant viendra, il vous apportera l'espoir, le courage et la beauté d'une vie nouvelle. Et je sais que d'espiègle petite pie, porteuse de chance et protection, viendront veiller sur ces petits êtres venus redonner joie et sourire à leur famille. Je vous souhaite donc de pouvoir rapidement faire résonner ces notes et ces mots de Benjamin Biolay. Croyez-y, j'y crois.
Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent, si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Mon enfant.
Merci infiniment Claire pour ce bel hommage, pour ce très beau texte, etc. Enfin, merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur ce sujet qui me tenait tant à cœur pour plein de raisons.
Merci à toi.
Je voudrais malgré tout donner des petites références sur un livre... qui a été écrit par une femme, je crois qu'elle habite à Toulouse, elle s'appelle Mathilde Lemiel, et elle a écrit « Mais presque petit rien ». Et c'est son parcours difficile durant quelques années par rapport au fait qu'elle a fait de nombreuses fausses couches. Voilà. Et ce livre peut aider quelques personnes que ce soit, ça me fait plaisir de la citer.
Merci pour la référence. Alors, enchaînons. Non, en fait, j'enchaîne pas tant que ça parce que sur une expérience personnelle, je tiens à remercier aussi des gens en fait qui font un boulot impressionnant, en l'occurrence à la maternité à Nancy. Voilà, moi, j'ai mon fils qui s'en est sorti. Je fais partie de ceux qui ont eu, enfin, lui fait partie au premier chef de ceux qui ont eu de la chance, mais il y a eu trois premières journées qui ont été, on savait pas. Bah, c'est ça en fait, ouais. Et le personnel de la maternité à Nancy en réanimation a été exemplaire. Voilà, donc c'était un petit hommage que je voulais leur faire en passant, parce qu'ils nous ont sans eux ça aurait été plus compliqué.
Oui.
Au-delà du médical, de l'acte médical, mais sur la relation avec les parents qui attendent. Merci beaucoup.
Et merci pour le beau texte.
Et merci pour le beau texte.
Merci à vous. Et je me permets, parce que la lumière arrive, et j'avais exprimé ma joie lorsque mon petit Arsène est né l'année dernière. Et là, j'ai une petite Pia qui est arrivée. Voilà. Donc, bienvenue à toi, ma bichette.
Tous nos voeux de bonheur.
Merci.
Une petite bienvenue.
Oui.
Jamalo, tu voulais...
Non, mais moi je peux pas, je laisse le silence, on va faire la transition, on en reparlera je pense hors antenne, ça nous a tous bouleversés. Voilà, je repensais en t'écoutant à de nombreux textes de Hugo qui a perdu Léopoldine, voilà bien sûr, et puis Juliette Drouet, l'amour de sa vie qui a aussi perdu sa fille, Claire Pradier, etc. Je pensais à tout ça, puis quand David m'avait un peu dit, on a préparé rapidement comme ça au téléphone, donc un peu le thème, je repensais, il y avait un livre sur la table de chevet de ma maman, un livre qu'elle rachetait régulièrement parce qu'elle devait l'égarer, je pense, et c'était un livre, il y a dessus, il y avait une marguerite et qui s'appelait « Lettre à un enfant jamais né ». Et je ne l'ai jamais ouvert ce livre, je ne connais pas du tout, hein, donc je ne suis pas en train de faire de la pub ou quoi, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est ce livre posé par ma mère qui est une mère avec un grand M, qui a eu 7 enfants, qui ne vivait que pour 16 enfants et tout, mais comme toutes les mères d'ailleurs, mais simplement de ce livre-là, pour l'enfant que j'étais, Je l'ai vu souvent et très petit. Ce titre était pour moi mystérieux, énigmatique. Je sentais qu'il était profond, que c'était peut-être une angoisse chez ma mère ou quelque chose. Enfin, voilà. Et en t'écoutant, tout ça, je me dis voilà. Enfin, en tout cas, un grand respect à tous ceux, toutes celles, tous ceux qui effectivement sont de près ou de loin touchés par ta chronique. Bien sûr, tout mon respect. Merci pour ta chronique.
Merci. Est-ce que tu as des références d'associations, justement, de groupes de parole, de choses comme ça?
Alors, pas sur moi, parce que j'ai pas voulu inonder, et je pense que c'était un petit peu difficile pour moi de le faire juste après. Mais éventuellement, je peux en redonner la prochaine fois, oui.
Ouais, ça pourrait être intéressant, justement, de passer aussi sur cet aspect-là dans la prochaine émission, ma foi.
Oui, avec joie.
On t'accueillera avec plaisir. Tu sais déjà de quoi tu parlerais la prochaine fois? T'as déjà des idées?
Alors, il est possible que j'évoque le burn-out parental.
Allons-y. Allons-y. Merci beaucoup. On va se délasser les oreilles, l'esprit et le cœur.
Parce que tu as fait beaucoup.
Ça fait deux choses, exactement. Mmh. Ouais. Mmh. Avec une petite pause musicale, je signale que cette chanson, en ce moment, dans la dernière émission, j'ai parlé de ma fille qui m'a fait découvrir, qui m'a fait redécouvrir Amel Bent avec ma philosophie. J'avais complètement oublié. Et là, en fait, c'est aussi une chanson qui tourne énormément à la maison et qu'elle aime beaucoup écouter en ce moment.
Dorothée.
Non. Marguerite, une chanson qu'on entend pas mal d'ailleurs en ce moment. Je l'ai pas découverte du tout. Que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a un aspect, féministe certes, mais c'est pas tant ça qui est le centre de l'histoire. Mais il y a une espèce de tendresse amusée pour les hommes, tout en expliquant qu'on peut aussi s'en passer.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez. Et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer.
Et qui s'empêchent de pleurer,
de pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne, mais les filles elles saignent aussi. Désolé les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
Jusqu'à 18h, Réussite éducative sur RCN, animée par Chamallow et David Richard.
Oh, elle a pas dit clown. Merci pour cette belle chanson.
Oui, bon, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pas toi qui chantais là.
C'est pas moi qui chantais, c'est moi qui l'ai composé.
C'était ouais, bah sans donc, transition, ouais. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à écouter. Vous êtes bien, réussite éducative. Et bah, c'est parti.
Alors, hop là, à chaque fois que tu fais ça, je reprends pour faire. Bah, non, en fait, c'est pas parti. Le robot, ouais, à chaque fois.
Et finalement.
On va se tourner vers Awa qui va nous parler, enfin, qui va introduire la thématique de l'accompagnement scolaire. C'est ta première chronique. Juste pour redire, toi, tu te projettes comment, toi, professionnellement? On reparle de ça, c'était toujours intéressant d'en parler.
Après le bac, j'aimerais entrer à Sciences Po et du coup faire des études de sciences politiques et de sociologie.
Ce qui va nous expliquer la raison pour laquelle tu introduis notre sujet. Je te laisse la parole. Pense à bien te mettre devant le micro, c'est ta première chronique. Je sais qu'elle est formidablement bien écrite. Passons à la parole.
Récemment, j'ai fait une immersion à Sciences Po où j'ai suivi des cours. L'un d'eux portait sur la sociologie de l'éducation. On y a étudié les différentes stratégies d'éducation dans les classes populaires, moyennes et aisées. C'est de là que je me suis appuyée pour écrire cette chronique. Une des causes des difficultés scolaires souvent oubliées, c'est le capital culturel et les connaissances scolaires des parents. Tous les parents ne peuvent pas aider leurs enfants dans les devoirs à la maison et cela crée un désavantage qui peut accentuer les difficultés. Pour répondre à ce problème, il existe un dispositif appelé devoir fait. On reste une heure de plus après les cours pour faire ses devoirs avec l'aide de professeurs. J'ai participé au collège, ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais un temps dédié uniquement aux devoirs, avec parfois les enseignants qui avaient donné l'exercice. Mais c'est seulement une ou deux heures par semaine, ce qui n'est pas suffisant pour certains. Et certains élèves ne travaillent pas, ce qui influence le groupe. Donc selon moi, même si devoir fait est utile, ça n'impacte pas vraiment la motivation et le manque de régularité dans le travail personnel. Il arrive aussi que les enfants aient du mal à repérer les difficultés de leur enfant. Par exemple, ma mère ne connaissait pas le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et c'est seulement à 15 ans que nous avons commencé le diagnostic. Dans mon cas, ça n'a pas été trop handicapant, mais pour d'autres, ça peut provoquer de vraies difficultés. Pour ces situations, il y a le PAP, projet d'accompagnement personnalisé, mais en avoir un peut parfois être stigmatisant et être la cause de moquerie. Au collège, j'ai vu que ça affectait beaucoup la motivation. Certains élèves refusent l'aide par peur d'être étiquetés. Pour beaucoup, l'école n'est pas une priorité dans le milieu où ils grandissent. Par conséquent, ils sont moins informés sur les études supérieures. Beaucoup ne savent pas, par exemple, ce que sont les classes préparatoires. Et s'il n'y a pas de projet clair, il devient plus difficile de faire des choix et de se motiver. Des associations comme l'AFEV proposent un mentorat gratuit par des étudiants bénévoles. Cela permet non seulement d'aider en cas de difficultés scolaires, mais aussi de motiver les jeunes grâce à un suivi régulier et une vraie relation. Ou encore les cordées de la réussite, un dispositif auquel je viens de m'inscrire. Il met en lien des lycéens avec des étudiants pour les accompagner dans leur parcours d'orientation et les encourager à viser plus haut. Tous les dispositifs que j'ai présentés, aussi utiles soient-ils pour certains, ne conviennent pas à tous les profils d'élèves en difficulté. Ceux qui ne peuvent pas être aidés de ces façons, mais qui rencontrent pourtant des difficultés scolaires, se retrouvent un peu délaissés et souvent classés parmi les mauvais élèves. Mais je pense que ces difficultés ne sont pas individuelles, mais qu'elles reflètent une défaillance du système scolaire. Le rapport à la culture joue aussi un rôle énorme dans la réussite scolaire. Les classes populaires ont leur propre culture, souvent centrée sur les arts de masse. Pourtant, l'école valorise une culture dite plus scolaire, considérée comme supérieure, et tend à dévaloriser celle d'une grande partie de la population. Dans les classes plus aisées, cette culture scolaire est transmise naturellement par l'entourage, les activités extrascolaires ou l'école elle-même. C'est une stratégie d'éducation qui n'est pas accessible aux classes populaires, faute de moyens ou de familiarité avec cette culture. Et c'est là que naît parfois un rejet de l'école, parce qu'elle ne parle pas le même langage et qu'un fossé se creuse entre le monde scolaire et la réalité. Merci pour votre attention.
Bah merci à toi, en fait, ta chronique. Elle est bien, tu vois, c'est ce que je disais, parce que je trouve que ça donne un point de vue un peu synthétique sur tout ce qu'on va aborder juste après. Et puis en plus, tu rentres quand même dans des notions qui sont assez pointues, et ça fait du bien un peu aussi. Et en plus, tu donnes ta position.
Et tu donnes ton avis, et ça, c'est encore plus intéressant, je trouve. Petit rebond, Chamallow ?
Non, c'est juste que, en t'écoutant, là, quand tu parlais de PAP, alors les PAP, les PAI, etc., eh bien, mine de rien, en abordant ce sujet, tu rejoins une question que j'avais posée à Alejandro la semaine passée, quand on évoquait les classes Ulysse, et tu rejoins une de mes réflexions, c'est-à-dire à savoir que c'est assez étrange, tu parlais de moquerie, de choses comme ça, c'est toujours assez étrange, tu vois, on est dans une radio dont le slogan, c'est le son de la différence, et finalement je crois qu'il serait temps que tout le monde comprenne que finalement nous sommes tous différents, chacun a une différence et que voilà, c'est ça, apprendre à vivre avec les différences des autres, de chacun, enfin bref, on prêche dans le désert, mais ça serait tellement bien tout ça, hein. C'est pareil, on parlait de la pédagogie différenciée avec David la semaine passée, c'est vrai que c'est bien de comprendre qu'un groupe classe n'est jamais que l'addition de multiples singularités. Et que la beauté, c'est justement de vivre avec la singularité de chacun, des autres aussi. Et merci en tout cas à toi pour cette belle chronique. Voilà.
N'hésite pas à intervenir par la suite si tu le souhaites dans la discussion. Lou, je ne me trompe pas.
Je voulais juste rebondir du coup, ce que vous...
Rebondissons.
Ce que vous disiez sur les deux, puisque moi je viens de finir mon master pour être professeur des écoles. Donc ça me touche en tant que professionnel, mais en tant que personnel aussi du coup. Parce qu'effectivement, on voit encore la différence dans l'éducation nationale, pardon, comme quelque chose de trop particulier et de quelque chose de à côté, même si on fait des efforts pour que ça soit de plus en plus inclus, etc. On voit quand même que ça impacte les élèves sans que nous, forcément, on le veuille. Mais on a une place très particulière de la différence, du différent, du handicap, etc. Et je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ça. Et c'est complexe, mais ça s'améliore, mais il y a encore énormément de boulot à faire ça. Donc c'est, je trouve que c'est génial de pouvoir en parler en radio et de mettre doigt là-dessus.
Et c'est vrai qu'en parlant des singularités, je crois qu'on peut rendre hommage aux enseignants qui sont là pour les élèves, notamment dans les classes Ulysse, les IME, qui font un travail formidable auprès des autistes, auprès des enfants trisomiques, auprès des enfants différents. Et je pense que c'est parfois difficile pour l'inclusion, c'est pas toujours possible en fait. Il y a des cas trop particuliers, non, enfin, où en fait c'est mieux pour l'enfant d'être dans une classe Ulysse que d'être en inclusion parce que c'est pas possible pour lui. Parce qu'un enfant dans trop de bruit, c'est pas possible. Et puis un enfant qui fait trop de bruit pour les autres, c'est compliqué pour l'enseignant, pour les enfants. Et alors oui, c'est vrai que l'inclusion, c'est quelque chose de formidable, mais c'est pas toujours applicable.
Parfois, faute de moyens.
Oui, aussi, parfois, faute de moyens. Oui, oui, oui.
Allez, en gros. Oui, vas-y, oui.
Je voulais revenir à la question de Chamallow. Comment dire ? Ah, je m'en souviens plus.
La question sur les moqueries.
Oui, voilà. Ouais. Je m'en souvenais pas, en fait.
C'était il y a une semaine, quand même, hein, donc t'écoutes.
Je m'en souvenais pas.
Et tu voulais dire, sur cette question-là ? Ou tu voulais...
C'était un joli texte. Franchement, ça m'a assez plu.
Ah, t'es reparti sur...
Non, sur le texte ici.
Alors, sur le texte d'Awa. Ah, désolé, excuse-moi, Awa, parce qu'en plus, quand je dis ça, ça fait genre... non, il est très bien aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le... C'était pas le même niveau d'émotion.
Mais on fera une émission, moi, je pense, hein, parce que par rapport à ce que vient de dire Claire, et puis madame dont je n'ai pas retenu
prénom. Alors, on a entendu successivement Lou, donc qui est service civique à la Fève, et Claire. Donc,
et puis Claire. Je pense, je proposerai à David, mais ce sera lui le chef pour la réussite éducative, celui qui fait sa tambouille, sa cuisine, mais une émission sur l'intégration, parce que par rapport à ce que dit Claire, et je parlais de pédagogie différenciée, ça nous concerne nous, les pédagogues ou les enseignants ou les adultes en général, nous aussi, de nous remettre en cause en permanence et de ne pas fonctionner par cliché, parce que je te rejoins totalement, j'ai connu une époque où il y avait ce cliché de l'intégration comme une sorte de mot-clé. Et du coup, j'ai connu des personnes, pour des raisons personnelles, qui avaient des problèmes visuels, qui étaient en intégration, mais qui du coup avaient des difficultés à s'en sortir parce que le fait de vouloir absolument faire l'intégration, finalement, ils étaient un peu seuls aux intercours et puis des difficultés à suivre. Et d'autres qui restaient dans des centres un peu plus fermés, type Santifontaine, etc., mais qui du coup réussissaient beaucoup mieux après quand ils allaient en études supérieures, parce qu'ils avaient eu dans ces endroits peut-être pas du tout intégrés finalement les outils nécessaires après à la réussite en études supérieures, et parce qu'ils n'ont pas été confrontés aux difficultés de cette fameuse intégration qui était devenue comme une sorte de cliché, mais qui en mettait beaucoup en difficulté finalement, parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps, sans avoir tous les outils nécessaires, à devoir gérer, et alors, et pourtant on disait oui mais il faut, c'est l'intégration comme une sorte de Dieu, un truc saint, l'intégration, sans voir qu'on en mettait en difficulté, alors que de temps en temps, être un endroit qui permet de bien gérer la situation, les particularités, pour ensuite, après peut-être, avec tous les outils nécessaires, mais finalement comme on veut toujours appliquer des espèces de clichés qui tout d'un coup sont là, alors il faut, parce que sinon, mais non, vous rendez pas compte, c'est l'intégration, c'est vraiment ça, pas du tout, des fois ça complique la vie, et je pense que c'est bien que nous aussi, en tant qu'adultes, on se dise tous les matins, bah, on va nuancer, une intégration nuancée, on va voir, plutôt que de vouloir appliquer à chaque fois des concepts, alors que finalement, ça peut rendre, accentuer des difficultés pour certains, ils ne sont pas adaptés, ça n'irait pas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il ne faut pas fonctionner par cliché. Quoi.
Non, mais c'est comme dans tout, c'est pour ça aussi que je ne suis pas pour les méthodes, quand on entend méthode Montessori, méthode Nalan,
on est
dans l'humain, et en fait on ne peut pas appliquer des méthodes ou des clichés, on est tous différents, on est tous singuliers, donc il faut s'adapter à tous. Alors effectivement, l'inclusion, ça peut être quelque chose de très bien, mais je pense, et... les personnes qui enseignent dans ces classes m'ont rapporté que ça n'est pas possible pour tous et ce n'est pas favorable à tous.
Et alors, dans tout ça, il y a les partenaires autour, en dehors du scolaire.
La transition.
Et là, je vais reprendre mon rôle de coordonnateur de la réussite éducative. En quelques mots, on a un nombre de mots que tu choisiras, Jean-Claude. Jean-Claude, en fait, toi, tu travailles du coup à la réussite éducative de Maxéville. On s'est rencontrés, je crois que tu avais répondu à une annonce à l'époque, il y a déjà plusieurs années, qu'on avait mis, disant qu'on cherchait des gens pour faire ces interventions. Je redonne juste le cadre quand même, on est sur des... interventions, alors je pense qu'au niveau de la FEV vous aurez la même approche aussi là-dessus, on est sur un peu plus que juste arriver et faire les devoirs, parce que tu as été très modeste tout à l'heure quand tu l'as présenté, mais en réalité souvent ce que je vais demander, et le besoin en réalité, d'ailleurs c'est pas ce que je demande, c'est le besoin, et un petit peu plus compliqué que ça, c'est pas toujours le cas mais ça peut être le cas, nous l'intérêt de tout ça c'est effectivement de pouvoir avoir des gens qui ont alors comment dire, moi en termes de recrutement, là t'es tout seul encore cette année d'ailleurs, en termes de recrutement j'ai besoin de gens qui ont à la fois une sensibilité justement sur cette intervention à domicile, qui ont une capacité à faire des retours sur ce qu'ils constatent à domicile. Moi je demande effectivement aux personnes de faire, je te laisserai quand même un peu expliquer ça, mais de faire des, comment ce retour se fait et à qui. Voilà, c'est rémunéré, alors effectivement on fait pas fortune avec, mais comme, je dis pas ça, hein, je sais qu'au niveau de la FEV vous êtes sur un bénévolat, moi il se trouve que je peux rémunérer une personne, c'est pas la folie non plus, mais je trouve que c'est important parce que je demande un petit peu plus que juste ouvrir le cahier, et j'imagine que tout le monde le ferait si tout le monde pouvait le faire. On est d'accord, je me tourne vers les gens qui sont autour de cette table. Voilà, est-ce que tu peux redonner un peu le cadre de ton intervention, toi en général, et puis on écoutera aussi du coup Alejandro qui nous racontera comment ça se passe avec toi, parce que ça m'intéresse beaucoup.
Moi j'interviens dans les familles, ça c'est un point clé, parce que ça veut dire qu'il y a une espèce d'apprentissage, qu'il y a une continuité entre l'école et ce qui peut exister à la maison, que le sac d'école n'est pas l'ennemi, que l'apprentissage... La mémorisation, c'est... Je n'osais pas toucher le micro. La mémorisation, c'est un processus dynamique. Ce n'est pas juste une couche par couche. Et le rêve que j'ai, on n'y arrive pas toujours, c'est qu'en quelques semaines, en quelques mois, la confiance s'établisse, évidemment, mais que petit à petit, c'est une méthode qui se met en place. Dans le fond, qu'il y a des devoirs qui ne soient pas tout à fait faits. Le jour J, ce n'est pas la notion importante. C'est mieux, mais c'est pas clé. L'important, c'est que Alejandro se mette à faire ses devoirs avant que j'arrive, qu'on en discute, qu'on voit comment tu as pu aborder le sujet, les maths, les additions, le texte à lire, etc. De telle façon que, à terme, aussi vite que possible, mais des fois c'est lent, tu sois autonome. Alejandro, c'est autonome. Je le cite parce qu'il est juste à côté de moi, donc c'est facile. Alors, chaque enfant est différent. Et la relation avec la famille aussi est tout à fait différente, ça c'est clair.
Ouais, clairement.
Ça joue, ça pèse énormément. Je ne sais pas si tu veux reprendre là-dessus ou...
Non, mais il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Et puis effectivement, on ouvrira un petit peu l'expérience au niveau de la FEV qui est, j'imagine, en partie similaire et puis aussi un petit peu différente parce que vous avez vos propres façons de fonctionner. Après, moi, je reprécise quand même que je demande à Jean-Claude systématiquement à chaque intervention, et quand il y a d'autres intervenants, certaines années, c'est le même principe pour tout le monde, de faire un compte-rendu à chaque intervention de ce qui a été fait en quelques lignes, de comment ça a fonctionné, éventuellement de l'état d'esprit. Voilà, aujourd'hui, c'était une bonne séance. J'ai trouvé un peu triste, il doit y avoir quelque chose, ou voilà. Et qui est transmis aux enseignants et qui est transmis également à d'autres partenaires si c'est nécessaire et si tout le monde est OK avec ça, quand il y a un suivi éducatif ou des choses comme ça. Mais c'est principalement avec les enseignants ou les professeurs principaux que c'est intéressant. Et après, effectivement, les enseignants jouent le jeu ou pas parce qu'ils peuvent ou parce qu'ils peuvent pas, hein, parce qu'ils ont le temps d'eux ou ils ont pas le temps. C'est vrai que c'est intéressant quand il y a un dialogue qui s'établit avec les enseignants, si je ne dis pas de bêtises. Mais je vois Alejandro qui lève la main. Est-ce que tu veux parler de justement quand Jean-Claude vient à la maison, comment vous travaillez?
En premier, on faisait les maths, si je me trompais pas. On faisait les maths avec... On faisait les maths. Après, on faisait un livre. Je sais pas si tu t'en rappelles. Si tu t'en rappelles. On faisait un livre qui s'appelait... Je sais plus c'est quoi son nom.
Mais c'est important que tu parles de ça, justement l'histoire du livre. Je sais que Jean-Claude, il y tient pas mal. Vas-y, je te laisse continuer.
Je m'en souviens plus c'est quoi... C'est quelqu'un qui s'est crash. Enfin, c'est son bateau, il est tombé. Enfin, t'as capté.
Il y a un naufrage, c'est ça? C'est Robinson.
Oui,
d'accord.
Robinson.
D'accord. Oui,
après,
d'accord.
Voilà, on a fait le livre après quand c'était. Je crois que c'était quand c'était les vacances, je crois. Oui. C'était au mois. Ah, je m'en souviens plus.
C'est pas très grave, Alejandro. Tu sais.
C'est pas grave.
Quel que soit le mois, le travail reste le même.
J'étais partie en vacances. Après, j'étais revenue. J'étais revenue en France. j'ai pris un peu plus de vacances que prévu. C'est le temps de me reposer parce que c'était un long voyage.
Clairement. Et je te reprends parce que je te relance sur quand Jean-Claude y vient justement. Alors quand il venait, parce que là il n'est pas encore revenu cette année, mais ça ne va pas tarder. Quand Jean-Claude venait, est-ce que ça faisait du bien au niveau des devoirs, même au niveau de toi, de comment tu te sentais par rapport à tout ça?
Oui, ça me sentait très bien.
Ouais.
Et surtout les soustractions. C'était compliqué. Compliqué.
Donc Jean-Claude, spécialiste en soustraction. Si tu veux reprendre le micro, tu peux le tourner vers toi.
Oui, juste, merci Alejandro, juste pour réagir sur la relation, moi aussi, dans les petits résumés que je fais après chaque intervention avec les profs. J'ai beaucoup de chance parce que maintenant les profs répondent brièvement, parce qu'on n'a pas trop de temps non plus. Ça me permet aussi d'appeler à l'aide parce qu'il y a des moments où je suis dans des impasses. Je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire, ce qu'on attend. Parce que là, encore une fois, je ne fais pas court, moi. Je m'appuie sur les devoirs à faire et j'essaye de suivre cela. C'est pas mieux. Donc j'ai pas à inventer, j'ai à faire vivre. C'est différent.
Toujours intéressant. Enfin, je trouve que tu fais toujours avec pas mal de délicatesse. Je trouve ça intéressant. Je me tourne rapidement vers toi. Ouais, est-ce que toi, c'est avec ces expériences-là, avec ce que tu as vu là sur la journée à Sciences Po, est-ce que c'est un truc toi que t'envisagerais de pouvoir faire de l'accompagnement scolaire? Tu parlais des cordées de la réussite. Si j'ai bien compris, toi, tu t'inscris en tant qu'accompagnante.
Non.
Je te laisse te rapprocher du micro.
Non, je ne m'inscris pas en tant qu'accompagnante, je m'inscris en tant que lycéenne.
D'accord, c'est ça que je n'avais pas compris, je connais assez mal les cordées de la réussite en réalité. D'accord, parce que comme tu disais que c'était des lycéens qui accompagnaient des collégiens, je me suis dit, elle est passée de l'autre côté du rideau. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager par la suite, justement, de t'investir dans ce genre de choses?
Oui, j'aimerais bien faire ça plus tard.
Ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur tes avis. C'est intéressant aussi tout ce que tu disais autour du capital culturel qui se transmet ou qui ne se transmet pas ou qui n'existe pas d'ailleurs, ou qui existe peu ou en tout cas qui est différent de ce qui est attendu. On revient à la question de la différence et de comment tout ça est accueilli. Je vais passer la parole à Lou et... je suis désolé,
Julie,
pardon, on se rencontre seulement, donc voilà. Le temps que les prénoms s'impriment pour que vous nous expliquiez un petit peu les méthodes de travail de la FEV autour de ce sujet.
Oui, alors donc nous on fait partie de l'association AFEV, donc l'association de la Fondation étudiante pour la ville. C'est vrai qu'on rejoint un peu ce principe d'un mentor. Bon, pour le coup, nous, nos mentors, ils sont lycéens ou étudiants, voire jeunes actifs. Donc, on est un peu plutôt sur un jeune qui accompagne un autre jeune. Et par contre, au niveau du mentorat, c'est vraiment un accompagnement très global. Comme je me permets de te tutoyer, Jean-Claude, c'est un mentor qui conseille, qui rassure, qui guide un lycéen, un collégien. Et on n'est vraiment pas sur le principe d'aide au devoir, comme on l'entend parfois. Et nous, on est sur le programme mentorat à distance, donc c'est un peu différent. Nos mentors, en fait, ils accompagnent un jeune en visio exclusivement. Donc, ils se rencontrent chaque semaine en visioconférence, sur WhatsApp, les applications un petit peu plus à la mode, Snapchat parfois même. Mais voilà, donc on a des mentors qui créent vraiment une vraie complicité malgré la distance avec leurs jeunes et qui sont vraiment là pour épauler leurs jeunes, montrer qu'une poursuite d'études est aussi possible, il existe plein de chemins que le jeune peut suivre. Et puis, je ne vais pas rentrer sur le détail de pourquoi est né le mentorat à distance, mais très rapidement quand même. En fait, à la FEV, on proposait à la base du mentorat en présentiel. Et en fait, le mentorat à distance est apparu pendant la crise du Covid, tout simplement parce que les binômes ne pouvaient plus se rencontrer. Et on a remarqué que ça fonctionnait plutôt bien, notamment pour accompagner des jeunes qui sont plutôt présents dans les zones rurales, très éloignés justement des bassins étudiants. Donc, il y a aussi ce truc où, en zone rurale, dans les campagnes profondes, les jeunes n'ont pas le même accès à la culture, le même accès à des associations, des structures éducatives en complément de l'école. Et donc là, ça offre justement un moyen de savoir ce qui se fait au-delà justement de sa campagne.
Ça, ouais, tu peux le rajouter dans ta chronique sur les aspects, les inégalités qui existent, le monde rural. Lou, toi, tu interviens donc concrètement sur ces accompagnements-là. Toi, tu fais aussi, donc toi, tu fais de l'accompagnement en visio, comme c'était dit juste avant. Si tu peux nous raconter un peu ton travail, comment ça fonctionne.
Oui, du coup, moi, je suis aussi mentor. Donc, j'ai une jeune collégienne que j'accompagne 2 heures par semaine en visio, du coup. Et effectivement, ça crée du lien très, très rapidement. Et effectivement, le fait qu'on puisse se créer une petite bulle, en fait, une petite safe place, vraiment, avec pas forcément un adulte, parce qu'on est jeune, enfin moi je pense une des plus vieilles déjà, des mentors peut-être, si je puis dire. Et c'est vraiment un petit temps où on est dédié aux jeunes, et c'est hyper important ça pour l'enfant d'avoir un temps où c'est consacré à lui, à ses problèmes, à ses problématiques, etc. Et des problématiques que des fois, on n'ose pas parler à nos professeurs, à nos parents, etc. Donc c'est trop chouette et c'est aussi hyper valorisant pour moi, hein, pour les mentors, parce que rien que partager notre expérience, ça peut nous aider, nous aussi, à résoudre des problématiques un peu inconsciemment.
Ouais, à prendre un peu de recul aussi.
Exactement, sur des trucs qu'au final, c'est bien aussi de discuter des trucs de tous les jours, des trucs simples, et de ne pas se prendre la tête. Voilà.
Comment ça se passe, la relation avec la famille, justement, sur le fait d'être en visio? Parce que c'est vrai que ça interpelle un petit peu, et comment ça fonctionne?
Je reprends le relais. Voilà. Oui, donc à la fois les mentors sont la plupart du temps, mais pas tout le temps, en contact avec les familles. Donc en fait, on organise au début du mentorat une première rencontre entre le mentor, le mentoré, le référent de la FEV qui va être là pour accompagner le binôme tout au long de l'année. Et puis sont aussi présents les parents ou en tout cas le référent, le représentant légal. Et donc déjà à partir de ce moment-là, on essaye d'établir aussi une connexion, voilà, au moins un petit lien avec la famille. Et ensuite, à la fois le mentor et le référent sont en contact de temps en temps avec la famille pour suivre un petit peu l'évolution et essayer d'impliquer la famille dans la scolarité. Voilà, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, faire du lien un peu entre l'école, à la fois la famille, le mentor qui est là pour accompagner à la fois sur le plan scolaire, mais aussi perso. Parce qu'on a des jeunes qui sont surtout en demande d'avoir quelqu'un sur qui se reposer, à qui se confier, qui sont voilà, parfois un peu stressés, angoissés, en souffrance. Donc justement, avoir quelqu'un un peu plus jeune, autre parent, autre que les parents et les profs sur qui se reposer, c'est intéressant. J'ai un peu dévié. Mais...
Non, non, ça ne dévie pas du tout. Hein. Je trouve que ça reste, ça reste particulièrement dans le thème. Alejandro, tu voulais dire ?
Vas-y. Je voulais revenir à la question de Julie. Enfin, la première qu'elle avait faite.
Vas-y, redis-nous, parce que je ne me rappelle plus. Honte sur moi.
Attends, comment dire ? Je ne me souviens plus.
Peut-être Julie pourra-t-elle se souvenir de ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'était quoi le...
Je ne me souviens plus.
J'espère qu'on n'est pas dans une impasse. C'était quoi le sujet ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? Vas-y, pose pas de questions,
j'allais dire... lance-toi. Ah, c'est bon, je me souviens. J'allais dire que truc, ça ne veut rien dire.
Julie a dit truc. Oh là là.
Tu me corriges, tu as raison.
Jean-Claude.
Merci. Oui, alors je reviens sur la chance que j'ai moi d'intervenir dans les familles, parce que c'est vrai qu'avec le temps il s'installe une relation amicale et que dans le fond je ne dis pas que ça stabilise la famille parce que la famille fait comme elle peut, mais ça fait un point de référence qui calme le jeu quelquefois. J'aide comme un travailleur social à remplir certains dossiers.
Je sais que ça arrive quelquefois, que tu files la coupe
plus ou moins régulièrement, mais je pense que cette interaction là amicale avec la famille, ça revient aussi vers Alejandro et vers les autres élèves d'une manière tout à fait positive. En tout cas, pour moi, c'est assez fantastique.
T'as eu principalement, toi, des élèves qui étaient en école élémentaire, oui. Très majoritairement. au niveau des âges, dans les accompagnements en visio, parce que c'est peut-être là que ça se joue aussi. Je soupçonne ça, mais je vous laisse m'en dire un peu plus.
Alors, c'est vrai que sur le mentorat à distance, on pourrait penser qu'on accompagne surtout des collégiens, lycéens.
Mais c'est l'impression que j'ai, mais non.
On a quelques jeunes qui sont aussi en école primaire, CE1, CE2, CM. Et ça fonctionne quand même. Bon, là, pour le coup, ça demande un peu plus d'organisation parce que c'est papa ou maman qui doit prêter le téléphone pour faire les séances. Mais ça fonctionne plutôt bien. Et justement, j'ai l'impression que c'est là où les parents créent vraiment une relation avec le mentor. Parfois, demandent même conseil au mentor.
Vous ne les rencontrez jamais ?
On rencontre rarement, on va dire, les binômes. On essaye d'organiser, parce que nous, on est présents sur Nancy avec mes collègues, donc on essaye d'organiser des moments de rencontre dans l'année avec nos mentors et nos binômes de Lorraine, on va dire, parce que c'est le plus simple. Mais comme on intervient sur toute la région Grand Est, voire aussi Bourgogne-Franche-Comté, ça fait un petit peu
Ah oui,
route.
Effectivement.
Oui, il y a des questions d'échelle qui se posent aussi à Léandro. Et je te préviens tout de suite, je te laisserai un petit peu conclure sur le sujet, parce que toi, Awa, tu as un regard d'ensemble sur tout ça, et tu as introduit ça avec un regard d'ensemble, donc ça m'intéresserait de voir si toi, tu as une conclusion à faire là-dessus. Je te le dis à l'avance, parce que je suis grand prince. Léandro.
Je voulais dire, c'est quoi votre plus grande peur ? Moi, ma peur, c'est de mourir.
Ouh là là !
C'est ma plus grande peur.
Tu nous envoies sur des choses. Alors, quelle est votre plus grande peur en tant qu'accompagnant scolaire ? Des choses qui peuvent vous inquiéter ou vous stresser ? C'est une bonne question, mine de rien.
Oui.
Ces gens n'ont peur de rien.
Est-ce que peur, c'était un vrai mot ? Est-ce que c'est le bon mot à mettre dessus ? Je ne sais pas, personnellement, c'est... Cette espèce de pression de pouvoir créer le bon lien avec la jeune, vraiment créer ce cadre dédié à lui, où il se sent à l'aise de parler, etc. On sait que quand on est au collège-lycée, on traverse tellement de batailles entre l'adolescence, etc. C'est toujours des périodes pas simples. Et des fois, rien que de nous partager notre expérience, c'est déjà très libérateur.
Ça apaise aussi, je pense, pour tout le monde.
Pour tout le monde, au final. Donc, ouais, peut-être cette peur de bien faire, de vouloir aider concrètement.
Ouais.
Surtout que nous, on a du coup, par écran, je trouve ça à la fois très compliqué, parce qu'on a le lien, mais pas physique, on va dire. Mais en même temps, je trouve ça assez fou et assez incroyable tout de suite le lien qu'on se fait très rapidement
dans ce contexte.
En un clic comme ça quoi.
Alors je regarde l'heure, on est dans un moment critique puisque l'émission est censée être terminée. En quelques mots, toi, quel regard tu as sur tout ça ? En quelques mots, très rapidement.
Pour conclure, je pense qu'il y a beaucoup de dispositifs d'associations et de structures pour aider les élèves en difficulté. mais qu'il faut informer les gens pour qu'ils aillent chercher l'aide.
Et bah c'est une conclusion super bien. En fait, c'est nickel. C'était ta première fois, mais franchement, tu reviens quand tu veux.
Et j'aimerais qu'on poursuive cette émission parce que j'aurais voulu encore interroger Jean-Claude.
Mais donc là, on poursuivra. Là, je crois qu'on fera mais un autre.
Parce qu'il y a un mot que Jean-Claude, tu as utilisé, une expression. Le cartable n'est pas un ennemi. Et je voudrais, on rebondira là-dessus. Parce que ton rôle, je trouve qu'il est fondamental. De réapprendre à l'enfant à aller vers ce cartable. Simplement, déjà ça, tout est gagné là, déjà. Donc, que ça, cet objet posé dans un coin. Merci beaucoup, David. On poursuivra parce que c'est très intéressant. Merci à vous tous, à la Fève.
Merci à tout le monde. Donc, merci à Lou, merci à Julie, merci à Awa, merci à Claire, merci à Léandro, merci, beaucoup,
merci
à Jean-Claude. Ouais.
Merci à tout le monde.
Merci à vous, chers auditeurs, de suivre nos aventures de réussite éducative. Et merci, bien sûr, à Jean-Luc, la technique. On ne l'oubliera jamais assez. À la semaine prochaine, vie associative. Merci à toutes et à tous.